quotidien sur RFI, la radio du monde. Il est 4h à Paris. Bienvenue pour un nouveau journal.
Mathis Limano.
Au sommaire, J-3 avant les législatives anticipées au Sénégal. L'ex-président Macky Sall est de la partie, mais particularité de sa campagne, il l'a fait à distance. Explication en début de journal. Au Sri Lanka, on vote déjà. Les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu plus d'une heure pour les législatives anticipées. 17 millions de Sri Lankais appelés aux urnes dans des élections décisives. Dans ce journal, on revient sur le jour 3 de la COP29. C'était ce mercredi. Les chefs d'État ont défilé à la tribune. Et puis en France, la chef du Rassemblement national en cours 5 ans d'inéligibilité. Au Sénégal, J-3 avant les législatives anticipées et cette particularité de la campagne, l'ex-président Macky Sall revient dans le jeu politique à la tête de l'une des principales coalitions d'opposition, Takou Walou, mais il fait campagne à distance depuis le Maroc. À Dakar, les explications de Léa Lisa Westerhoff.
Nous sommes tout le temps en contact par téléphone, affirme Abdoumbo, l'un des cadres du parti de Macky Sall. Même son de cloche chez le coordinateur de la campagne de Takou Walou, Sédou Gueye, qui parle d'une présence digitale et vocale importante de l'ex-président qui, depuis le Maroc, lui parle plusieurs fois par jour et participe à toutes les réunions. Pour ses fidèles, l'absence de la tête de liste nationale ne porte donc pas préjudice à leur coalition. La stratégie a été adaptée, avec dans chaque département la tête de liste locale qui fait campagne sur le terrain, le choix aussi de faire du porte-à-porte plutôt que des grands rassemblements, enfin de s'associer dans presque tous les départements du pays avec la coalition de l'opposition Sam Sakadou, emmenée par le maire de Dakar, une intercoalition qui doit servir à récolter plus de voix de l'opposition. Reste à savoir pourquoi Macky Sall a choisi de ne pas revenir au Sénégal battre campagne. L'ex-président ne s'en est pas expliqué. Pour le professeur de sciences politiques Maurice Soundiek Dion, un retour aussitôt du président sortant n'a pas été envisagé, car il risquait, je cite, de créer des tensions, alors que le Sénégal sort d'une période très difficile en matière de violation des droits et des libertés. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Cela fait 10 jours que lui a remporté les élections. Donald Trump, le président élu, reçu ce mercredi par le président sortant, Joe Biden, à la Maison-Blanche. Donald Trump qui pourra gouverner les mains libres dès sa prise de fonction en janvier. En effet, le Parti républicain est majoritaire à la Chambre des représentants et au Sénat. Mais d'ici là, il continue d'étoffer son équipe après la retentissante nomination d'Elon Musk au département de l'efficacité gouvernementale. C'est au tour du sénateur anti-Chine Marco Rubio d'être nommé à la tête de la diplomatie. Restons dans ce volet élection, car au Sri Lanka, c'est ce jeudi que les 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leurs députés. Scrutin à l'occasion des législatives anticipées convoquées par le nouveau président Hanura Kumara Dissanayake. Des élections décisives qui pourraient remodeler le paysage politique du Sri Lanka 2 ans après la mobilisation massive qui avait entraîné la chute du président Rajapaksa, Yelena Tomic.
Tout l'enjeu pour le président Dissanayake, un ancien marxiste reconverti à l'économie de marché, sera de garantir une majorité parlementaire qui permettra à son gouvernement de mettre en œuvre ses promesses électorales, notamment de débarrasser le pays de la corruption, d'accroître la transparence, mais aussi de poursuivre les réformes macroéconomiques dictées par le FMI, tout en allégeant le fardeau des plus pauvres. Les attentes de la population, confrontée il y a 2 ans à la pire crise économique de l'histoire, sont énormes. Si la coalition de Dissanayake, le pouvoir national du peuple, n'obtient pas la majorité, il sera contraint à des alliances et peut-être même une cohabitation avec une figure de l'opposition représentant les puissantes élites politiques, pourtant largement rejetées lors de la présidentielle, car accusées d'avoir précipité le pays dans la faillite. Le prochain Parlement pourrait toutefois voir apparaître une majorité de nouveaux visages issus en partie de la société civile, incarnant une vraie alternance politique et un renouvellement de la classe politique sclérosée du pays.
Yelena Tomic, et puis on en sait un peu plus sur la situation à Brasilia. Il y a quelques heures, 2 fortes explosions ont retenti près de la Cour suprême du Brésil. Les juges ont été évacués en urgence. Selon les autorités, un homme chargé d'explosifs a tenté de pénétrer l'enceinte en vain. L'assaillant est mort. Aucun blessé n'est à déplorer, selon la police brésilienne.
RFI.
toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Il est bientôt 3h05 en temps universel, 7h05 à Bakou, en Azerbaïdjan. C'est là que se tient la COP29 sur le climat. Quatrième journée ce jeudi et quatrième round, car on entre dans le dur des négociations. L'objectif cette année, réévaluer à la hausse les aides des pays riches à destination des pays en développement, afin que ces derniers puissent financer leur transition et s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. C'est également un enjeu de justice, ont rappelé mercredi de nombreux chefs d'État et de gouvernement à la tribune, étant donné la responsabilité historique des pays riches dans le réchauffement climatique. Ce qu'il ne fallait pas manquer mercredi à la COP29 avec Simon Rosé.
Dickon Mitchell, le ton grave à la tribune, le premier ministre de la Grenade, alors que son pays est en ce moment frappé par des pluies et des inondations.
Nous ne sommes pas là pour supplier, nous ne sommes pas là pour votre sympathie, mais pour montrer que nous sommes tous concernés. Ce sera l'Espagne demain, ce sera la Floride le jour d'après.
Il rappelle l'impératif, il faut plus de financement pour les États en développement. Il a été rejoint par de nombreux autres, comme le Bangladais Mohamed Yunus, qui a dénoncé la situation humiliante des pays pauvres, contraints de mendier de l'argent pour résoudre les problèmes causés par leurs homologues plus riches. L'objectif, c'est de multiplier par 10 la somme actuelle, 100 milliards de dollars par an. Les chefs d'État et de gouvernement quittent Bakou, le travail se fait désormais dans les salles de négociation. Un nouveau brouillon d'accord a été présenté, bien plus long que le précédent, plus de 30 pages. Reste à voir si cette inflation témoigne de tension entre les parties, car de la tension, il y en a eu. Le départ de la délégation argentine rappelé au pays par le président climato-sceptique Javier Milei et les propos du président azerbaïdjanais contre la France, responsable à ses yeux de crimes en Nouvelle-Calédonie. La réponse de Paris ne s'est pas fait attendre. La ministre de l'Environnement n'ira finalement pas à Bakou pour la dernière ligne droite des négociations.
En France, justement, cette réquisition, 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National à l'Assemblée, jugée comme 24 autres personnes dans l'affaire retentissante des assistants parlementaires. Une peine assortie d'une exécution provisoire, demandent les procureurs, c'est-à-dire qu'elle s'appliquerait immédiatement, même en cas d'appel du jugement. L'accusation requiert aussi 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables à l'encontre de Marine Le Pen, qui dénonce la violence et l'outrance des réquisitions du parquet. On l'écoute.
On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement National pour pouvoir ruiner le parti. C'est l'aveu de Madame la procureure. Quand elle a dit, écoutez, sur ce contrat, je n'ai absolument aucun élément, mais je ne peux pas réclamer la relaxe parce que ça me ferait trop mal. Bon, écoutez, quand un procureur est capable de dire une chose pareille, il ne faut pas s'étonner après de l'outrance de ces réquisitions. Je souhaite que le tribunal ne suive pas le parquet et entende, encore une fois, l'ensemble des arguments que nous avons pu développer. J'avoue que j'ai été assez choqué d'entendre le représentant de la société, car le procureur est le représentant de la société, reprocher à des justiciables que nous sommes d'user de leurs droits, comme si user de nos droits était un abus de droit.
Et si la peine de 5 ans d'inéligibilité est prononcée à l'encontre de Marine Le Pen, cela signifierait qu'elle ne pourrait pas se présenter lors de l'élection présidentielle de 2027. L'actualité dans l'hexagone politique et sportive. Le match de Ligue des Nations France-Israël, c'est ce jeudi. Un match sous le feu des projecteurs depuis plusieurs jours, tant sur le plan sportif qu'extra-sportif. Déjà car les Bleus ne doivent pas perdre ce match pour pouvoir récupérer la première place occupée par l'Italie, le prochain adversaire des Bleus. Tout dans un contexte sécuritaire très élevé autour du Stade de France. Mais pour le milieu de terrain de N'Golo Kanté, il faut absolument se focaliser sur l'enjeu de ce match, même s'il admet que les joueurs ont leur avis sur la situation au Proche-Orient.
En venant en équipe de France, on sait qu'on représente l'équipe de France, pas forcément nos opinions personnelles. Après, ce qu'on va faire, voilà, c'est de donner le maximum pour le maillot, de se qualifier pour la fédération, pour l'équipe de France, pour ce que ça représente. Après, on a tous des avis personnels qu'on souhaite partager ou pas. Moi, personnellement, ça fait un peu de peine et un peu attristé de voir ce qui se passe. On espère que ça s'arrange. Mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on vient en équipe de France, on représente le foot français et ce qu'on doit faire, c'est gagner, se qualifier et écrire des belles pages de foot. Ouais.
Le milieu de terrain des Bleus, N'Golo Kanté, qui portera le brassard de capitaine ce jeudi soir. Cela a été confirmé par le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. Donc je vous le rappelle, ce match de Ligue des Nations France-Israël au Stade de France, c'est à 20h45, heure de Paris, pour le coup d'envoi. En attendant, ici à Paris, les 4h10, vous êtes bien sur RFI. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.